Aujourd'hui, nous recevons Martin Barnier pour évoquer le passage du muet au parlant au cinéma. Et nous prenons prétexte de l'actualité récente et la nomination mardi 24 janvier du film The Artist aux Oscars dans les catégories meilleur film, meilleur scénario original, meilleur acteur, meilleur réalisateur et meilleure actrice dans un second rôle pour évoquer justement les questions liées à ce passage. Martin Barnier, bonjour. Vous êtes professeur d'études cinématographiques à l'Université Lyon 2 et vous menez des recherches sur l'histoire du son au cinéma.
Oui, bonjour.
Et donc je vais commencer tout de suite par une question technique. Comment le parlant a-t-il été rendu possible au cinéma à la fin des années 20?
Alors du point de vue technique, il est très important de remarquer qu'on aurait pu faire une généralisation du parlant plus tôt parce qu'on avait du matériel pour cela. Dans les années 1910, en France, comme je l'explique par exemple dans mon livre Bruit, cri, musique de film, les projections avant 14, paru aux presses universitaires de Rennes, on a la possibilité d'avoir des phonoscènes, c'est-à-dire des films très courts qui sont des chansons filmées, des petits dialogues de théâtre, des petits sketchs, que la compagnie Gaumont distribue partout en France dans les grandes salles avec un système de synchronisation mécanique, disque et projecteur. Ce système fonctionne très bien et dans les premières parties de programme, on a régulièrement des présentations de phonoscènes. Il y a plusieurs centaines de phonoscènes qui ont été filmées en France pendant cette période, rien que par la compagnie Gaumont. Et d'autres compagnies, Mandel par exemple, mais même Pathé, dont on pensait jusqu'à récemment qu'ils n'avaient pas fait de films parlant ou chantant, font des petits films de ce type entre surtout 1908 et 1914. Et donc pendant cette période, on a une profusion de systèmes de synchronisation mécanique. C'est la même chose en Allemagne, c'est la même chose aux États-Unis où il y a des dizaines de systèmes de synchronisation mécanique qui existent dans les salles. Ce qui se passe dans les années 1920, c'est qu'au lieu d'avoir une synchronisation mécanique de disque avec le film, on va passer au son sur film avec la piste optique. Alors ce système de piste optique est développé techniquement par des Allemands au même moment que des Danois, certains Américains, et surtout celui qui est en pointe pour pouvoir le mettre en place de manière industrielle, c'est Lee de Forest. Lee de Forest, qui est inventeur de la lampe triode, qui sert à l'amplification radiophonique, va proposer un système qu'il appelle le phonofilm, et à partir de 1924, il fait des petits films. Par exemple d'actualité, il a fait interviewer Mussolini en Italie qui parle en anglais à ses compatriotes italo-américains. Il fait des petits films qui prennent des numéros de music-hall et tous ces courts films passent dans une cinquantaine de salles sur la côte est des États-Unis et il passe notamment un accord avec les frères Fleischer pour des dessins animés, les Coco Song Cartoons, dans lesquels on a des petites chansons qui sont illustrés par des dessins animés. Donc il y a la possibilité déjà d'une généralisation du parlant dès le début des années 20. Techniquement, on sait le faire. Les films de Lee de Forest qui ont été conservés, on peut les écouter aujourd'hui, ils fonctionnent très bien. Et on pourrait dire que pourquoi est-ce que le parlant ne s'est pas développé en 1924. Ce qui manque en fait, c'est pas l'élément technique, parce qu'on a plusieurs systèmes de reproduction possibles du son, le disque ou le son sur film, c'est beaucoup plus l'engagement financier. Alors là, on a deux compagnies importantes à Hollywood qui vont investir massivement dans le domaine, la Warner Brothers d'un côté et la Fox d'un autre côté. La Fox choisit de prendre le système de son optique et ce sont les actualités Fox Movietone qui, dès 1927, permettent par exemple d'entendre le décollage de Lindbergh depuis les États-Unis, alors que l'atterrissage, quand il est filmé en France, par contre, il est muet, puisqu'il n'y a pas d'actualité parlante pour enregistrer le son de son avion à l'atterrissage. D'un autre côté, les frères Warner ont un accord avec la Western Electric pour développer le système qui s'appelle Vitaphone. Et ce système est un système de reproduction des sons sur disque qui marche très bien parce que la Western Electric a mis au point un électrophone à partir de 1925. Ce système a une bonne amplification du son, une bonne diffusion des sons électriquement dans les salles de cinéma. Le seul désagrément ou possible problème, c'est d'avoir un décalage entre le son sur disque et le son sur film, et d'avoir une désynchronisation. Mais si les projectionnistes sont attentifs, si on fait attention à pareiller les disques, etc., on aura des synchronisations qui fonctionneront. Et qui fonctionneront assez bien dès 1926. Donc, en août 1926, il y a un film qui s'appelle Don Juan, qui est produit par la Warner et qui est proposé avec toute une série de courts-métrages sonores en première partie où on a des chansons filmées, un morceau de Wagner qui est Tannhauser qui est joué par un orchestre new-yorkais, des morceaux d'opéra, etc. Et donc, on a déjà toutes les possibilités pour enregistrer et reproduire des courts-métrages chantants, parlants, il y a des sketchs aussi, musicaux, et le long-métrage Don Juan, il a des bruits d'épée lorsqu'il y a des duels et de la musique. Mais on ne pense pas que ce soit nécessaire de mettre des dialogues, alors que techniquement c'est possible, c'est un petit peu compliqué mais c'est possible, on ne pense pas qu'il faut mettre des dialogues. Donc l'idée que c'est en 1927 que se fait la généralisation du son, bien que je vous ai donné des exemples de tout ce qui se passait avant, c'est que d'abord les investissements sont de plus en plus massifs pour la Warner, qui n'est pas du tout au bord de la faillite comme on le trouve encore parfois dans certaines histoires du cinéma, c'est simplement que les actionnaires à Wall Street décident de mettre énormément d'argent dans cette compagnie pour qu'elle se développe, et elle est en train de faire des achats tous azimuts. Elle a développé une station de radio pour faire sa propre publicité, elle a acheté des maisons de droits de musique, des maisons de disques, de façon à avoir les droits sur les musiques qu'elle va utiliser, elle achète des salles, un immense parc de salles, donc, et des studios. Elle développe de nouveaux studios. Donc il y a des investissements qui font qu'on a l'impression que les comptes sont dans le rouge. Mais tout ça est très calculé, et c'est le développement de la compagnie qui est prévu. Et parmi tout cela, il y a le développement du côté du son, avec ce système de la Vitaphone en accord avec la Western Electric. Donc, à partir de la fin 26 et début 27, ils se disent on va faire de plus en plus de publicité sur notre système, et ils choisissent à un moment un film sur lequel ils vont faire plus de promotion. Et ce film, c'est Le Chanteur de Jazz, qui sort en octobre 27. Bon, le Chanteur de Jazz marche assez mal. Il est surtout vu en muet, parce qu'il y a très peu de salles qui sont équipées pour le passer avec le système sonore de la Warner. Et donc, c'est au bout de 6 mois de publicité massive, au début de l'année 1928, que vraiment il commence à avoir un décollage sur ce film. Mais on sait que, par des recherches, notamment Donald Crafton aux États-Unis, a montré que la firme Warner montrait ce film dans une salle à moitié vide pendant des mois, et que finalement, par beaucoup de publicité, et surtout rétrospectivement plus tard, ils ont choisi ce film en disant, voilà, il y avait 2 minutes de parole dans le film, donc c'est le premier parlant. Alors, on a plein d'autres films dans lesquels il y a des petits bouts de parole, on a les actualités parlantes de la Fox qui sont montrées avant, donc c'est un peu un paradoxe, mais c'est le système économique. Et la généralisation, elle se fait parce que, un, la Fox fait de plus en plus de films avec des systèmes sonores, deux, la Warner continue avec ses films suivants qui seront de plus en plus sonores, et à partir de juillet 1928, 100% parlant, donc il y a un pourcentage de paroles dans le film de plus en plus important. Et donc, en mai 1928, toutes les autres compagnies se disent, MGM, Paramount, Columbia, United Artists, Universal, à partir de mai 1928, ils se disent, si on passe pas au parlant nous aussi, on va être à la traîne, on va se faire doubler, et on va vraiment perdre de l'argent là-dedans. Donc il faut vite passer au parlant. Donc mai 1928, signature des autres compagnies qui n'étaient pas Fox et Warner qui avaient pris les devants, avec un accord très précis fait avec Western Electric, RCA, qui va fonder la compagnie RKO. Donc il y a ces différentes grandes compagnies, grands groupes de matériel électrique et de matériel sonore et radio qui passent des accords avec les compagnies hollywoodiennes. Et donc à partir de cette date-là, on peut dire qu'il y a la généralisation du parlant qui se fait parce qu'il y a un investissement massif. C'est pas tellement un problème technologique qui a été résolu plus tôt, c'est l'investissement et la décision des grandes compagnies.
Oui, et justement en termes de coûts, qu'est-ce que cela change du côté de la production ?
Alors c'est évidemment un investissement massif parce qu'il faut transformer les studios. Il faut insonoriser les plateaux de studio. Avant, un plateau de studio, on pouvait faire 3 films en même temps avec les réalisateurs qui crient dans des haut-parleurs pour que leurs acteurs bougent au fur et à mesure, etc. Tout ça, c'est fini. Il faut le silence complet sur le plateau. Les micros sont très sensibles. Ils captent n'importe quoi. Quelqu'un qui éternue, un câble qu'on déplace, et ça va faire des vibrations et ça va s'entendre. Donc, il faut insonoriser. Il faut changer donc le plateau lui-même, la porte du studio, les murs du studio, hein, mettre des rideaux partout. Il faut blimper les caméras, c'est-à-dire mettre des énormes caissons insonorisateurs autour des caméras de façon à ce qu'elles ne fassent pas de bruit quand on a un micro assez près. Il faut également changer les méthodes de travail des acteurs qui doivent savoir parler sans bégayer, sans problème, etc. Il faut mettre dans un caisson... Au départ, même plus que blimper les caméras, on les met même dans un caisson insonorisé. C'est une espèce de placard avec une vitre et on filme à travers la vitre. Et puis, on a des micros qu'on place un petit peu partout, qu'on cache dans le décor. Donc, ça demande une transformation complète des méthodes de travail et des investissements. Au même moment, les lampes changent. Il ne faut pas que les lampes grésillent, etc. Le maquillage, donc, change. Les types de... films qui sont utilisés, c'est-à-dire le type de pellicule change. Enfin, vraiment, c'est une transformation massive des studios entre 1927, on va dire, pour Fox et Warner, et 1929, où la généralisation est finie à Hollywood.
Vous parliez des méthodes de travail des acteurs. Est-ce qu'au moment du passage au parlant, il y a vraiment eu une ligne de partage entre ceux qui arrivent à jouer dans des films parlants et ceux qui, justement, n'y arrivent pas? Et si c'est le cas, pourquoi?
Alors, c'est un peu exagéré, mais ça arrive pour quelques cas de personnes qui sont écartées des plateaux à la suite du passage au parlant. Beaucoup d'acteurs ont peur, et en plus, la dictature du micro dans les premiers mois, au cours de l'année 28 et au début 29, est telle que c'est les ingénieurs du son qui disent « lui, il a une bonne voix, on le garde, lui, on le prend pas ». Donc, prenons l'exemple de Emil Jannings, un grand acteur allemand, il va... faire une carrière muette aux États-Unis qui pleine de gloire, et au moment du parlant, les ingénieurs du son disent il a un accent allemand terrible quand il parle anglais, hop, il doit partir. Alors il y a des acteurs sont plus malins, par exemple Greta Garbo, elle refuse de faire de tests, etc. Elle ne veut pas jouer dans un film parlant, et en fait elle attendra plusieurs mois, elle attendra même plusieurs années, parce qu'en fait beaucoup d'acteurs passent au parlant en 28, à la fin de l'année 28 ou au cours de l'année 29, et elle, c'est en 1930 seulement. Et du coup, la pub sur le premier film parlant de Garbo, c'est Garbo Talks. Donc, elle parle enfin, et on va venir voir le film pour ça. Et elle a un accent suédois, léger, mais et du coup, on est obligé d'inventer des histoires au début où elle est une reine étrangère, où elle est une immigrée, ou des choses comme ça, et c'est une manière de... Alors, en plus, elle a une voix surprenante, parce qu'elle a une voix très grave. Pour la jeune fille frêle qu'elle jouait au muet, ça fait un contraste. Donc elle joue sur tout ça, mais elle le fait de façon très intelligente. Le grand partenaire de Garbo, qui s'appelait John Gilbert, lui, il va avoir beaucoup de problèmes avec la MGM, avec laquelle il était sous contrat, parce que... Alors, est-ce qu'il a une voix vraiment fluette? Quand on entend les films aujourd'hui de John Gilbert, franchement, pour même un auditeur attentif, on trouve pas du tout. Il a pu jouer dans des films où il était mal enregistré au début. Il a joué dans des films où il s'est un peu couvert de ridicule avec des dialogues qui n'étaient pas terribles, qui sont justement montrés de façon comique dans Chantons sous la pluie, où le passage où Jane Kelly dit « I love you, I love you, I love you, I love you ». Ça, c'est vrai qu'il y a un film dans lequel John Gilbert a dit « si je pouvais remplacer toutes les phrases qu'on m'a données par simplement « I love you » et que je répéterai. » Mais du coup, certains s'en sont moqués. Il y a quelques salles dans lesquelles on a rigolé. Tout de suite, les journalistes ont amplifié ça. Mais je crois, d'après les biographies de John Gilbert, la MGM voulait se débarrasser de lui. Il avait des problèmes de drogue, il avait des dépendances et d'alcool. Et du coup, ils ont pris un prétexte à un contrat qu'on pouvait briser d'une façon ou d'une autre. Et après, ils faisaient courir le bruit que c'était à son incapacité à faire des films parlants. Bon, en fait, quand on le voit dans Queen Christina, le film de Ruben Mamoulian, où il retrouve Greta Garbo à la demande de Greta Garbo, et en 1935, il joue parfaitement bien, il parle très très bien, il n'y a aucun souci. Donc, il y a le prétexte aussi qui est utilisé du passage au parlant par certains studios. Mais en même temps aussi, au début, les micros sont tellement sensibles et il n'y a pas de possibilité de filtre Il faut attendre plusieurs années avant qu'il y ait vraiment des filtres, avant qu'il y ait une nuance possible dans l'enregistrement du son. Et du coup, ça pose des problèmes, c'est vrai, pour certaines voix. Donc voilà, ça explique un passage un peu délicat. D'autre part, les acteurs de théâtre et de comédie musicale arrivent à Hollywood et eux, ils sont favorisés parce qu'ils ont cette maîtrise de la voix. Donc il y a un nouveau cheptel d'acteurs, parce qu'ils étaient vraiment considérés comme des animaux par certains producteurs, qui leur permet aussi de casser les prix finalement d'une certaine façon et de remplacer certains acteurs. Mais certaines grandes stars peuvent continuer. Par contre, les grandes stars du muet qui étaient des acteurs de films comiques, Harold Lloyd, Buster Keaton, c'est assez catastrophique leur passage au parlant quand on essaye de les faire parler, et les films comiques parlants, ils perdent complètement le contrôle. On leur rajoute des gags avec des paroles et ça fonctionne pas du tout. Donc là, il y a quelqu'un qui a très bien vu le coup, c'est Chaplin, puisqu'il a refusé pendant des années le parlant, et que en 1936, carrément 8 ans après le passage au parlant de Hollywood, il est en train de faire juste une chanson dans les temps modernes à la fin du film. Le reste du temps, il reste muet. Il faut attendre 1941 et le dictateur pour que vraiment il fasse parler un personnage.
Enfin, qu'est-ce que cela a changé pour le spectateur et quel parallèle pourrait-on établir avec le spectateur d'aujourd'hui qui, à l'inverse, a été fasciné par exemple par les prestations muettes de Jean Dujardin ?
Alors, le spectateur de 1928 aux États-Unis semble accueillir assez favorablement le parlant parce que c'est vrai qu'il y a une attraction sur le fait qu'on va entendre certains acteurs, on va découvrir une nouvelle manière de jouer. Les petits villages du Middle West des États-Unis peuvent voir des stars qui étaient à Broadway et les entendre en train de chanter, danser, etc., parce que les comédies musicales vont rapidement se développer. Donc il y a un engouement, c'est certain, et il y a une grande hausse de fréquentation. Alors là, il y a une sorte de paradoxe si on regarde du point de vue de la répartition du nombre de spectateurs, c'est que peu de temps après la généralisation du parlant, il y a la crise de 29. Alors c'est absolument pas lié, hein. C'est-à-dire que pour les studios, elle n'avait pas prévu qu'en octobre 29, il y aurait la crise, alors qu'ils avaient signé en mai 28 le passage au parlant. Donc il n'y a pas de rapport direct. Ce qui s'est passé, c'est qu'au début, il y a une hausse de fréquentation, il y a beaucoup de gens qui disent « ouais, c'est super, ça chante, ça parle, etc., on va aller voir ces films parlants ». Mais après 1929, et surtout au moment où la crise s'installe vraiment, c'est-à-dire au cours de l'année 1931, il y a une chute du nombre de spectateurs. Et là, c'est normal, puisque les gens, s'ils n'ont plus rien comme argent pour manger, ne vont surtout pas le dépenser en allant au cinéma. Donc là, c'est catastrophique. Paramount, par exemple, est en redressement judiciaire pendant 4 ans, parce qu'ils sont en faillite, ils n'ont plus du tout ils ont trop de salles et pas de spectateurs dans les salles. Donc, il y a ce gros problème de la crise qui est complètement indépendant du parlant. Hein. Au contraire, le parlant a fait un engouement, mais il s'est trouvé que la crise économique est arrivée juste un peu après. Donc, fascination pour le parlant, bon, ça fonctionne à peu près partout dans le monde. En France, pendant l'année 29, les films américains, pourtant qui sont pas encore doublés, même pas sous-titrés pour certains, c'est très compliqué, on met des cartons, on intercale des cartons pour... Il y a un peu des systèmes, et on va mettre en place les versions multiples à la fin de l'année 1929, c'est-à-dire des versions faites par des acteurs français d'un film américain, ou le film franco-allemand va faire des versions françaises et allemandes d'un même film. Par exemple, Le Testament de Dr Mabuse, il est fait en deux versions, une version allemande et une version française, par des acteurs français qui vont le jouer en Allemagne. Donc il y a différents systèmes comme ça, mais les gens se précipitent vraiment dans les salles au démarrage du parlant, même s'il y a certains films qui sont pas terribles. Aujourd'hui, quand les gens voient un film muet, c'est surprenant. Azanavicius, je trouve, a très bien joué avec le spectateur en gardant le suspense. Est-ce qu'à un moment on va entendre parler, etc. Il y a une séquence où il y a des bruits et on se dit tiens, là ça y est, il a rompu le pacte qu'il avait établi au début du film. Non, il continue de mettre des cartons, tout ça. Donc c'est fait de manière très intelligente et très intéressante, et surtout très humble, je trouve, parce que il y a une vraie fascination d'Azanavicius pour ce cinéma des années 20 et 30, et dans lequel il va faire plein d'hommages, plein de clins d'œil, avec beaucoup d'humour, et ça fonctionne plutôt bien pour moi. Bon, j'aime beaucoup le passage de très simple, où il y a des cartons successifs, qui sont des cartons de générique, dans lesquels on voit que le nom de la jeune interprète monte de plus en plus haut dans la liste des interprètes, et qui montre donc qu'elle arrive en haut de l'affiche. Quand le film a été présenté en octobre, au Festival de Lyon en octobre 2010, j'ai pu rencontrer Michel Hazanavicius après la projection, et donc je lui disais que pour moi, historien du cinéma qui ai fait ma thèse sur le passage au parlant, c'était un film qui m'intéressait beaucoup, mais je regrettais qu'il ait fait des petites erreurs historiques. Par exemple, c'est pas en 1929 que les compagnies sont passées au parlant, mais en 1928, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et en fait, il me dit, bon, ça c'est la licence poétique, j'ai le droit de faire ce que je veux, surtout que la crise de 28, personne connaît. Effectivement, il n'y a pas de crise de 28, mais la crise de 29, oui, donc, comme ça lui permettait de faire coïncider la faillite du personnage joué par Jean Dujardin à cause de la crise. En plus, il est complètement mis hors sujet à cause du parlant, du fait qu'il refuse ce parlant. Alors, donc, il y avait d'autres choses sont totalement aberrantes. Par exemple, Jean Dujardin fait brûler des pellicules. Le support nitrate de cellulose de la pellicule de l'époque, accumulé dans une pièce plusieurs pellicules et mettre le feu, c'est une explosion immédiate. La maison disparaît immédiatement. C'est impossible qu'on survive et que ça se consume à petit feu et que quelqu'un ait le temps d'arriver en voiture pour sauver le personnage en question, que le chien ait le temps de le sauver. Donc, il y a plein de petites erreurs comme ça, mais c'est fait avec beaucoup d'humour et d'humilité. Et au moment où j'expliquais ça justement avec Michel Hazanavicius, discutais une vingtaine de minutes avec lui, il y a quelqu'un qui m'a tapé sur l'épaule et qui disait « Alors, il s'est planté, Michel. Je savais qu'il avait fait des conneries. » Et c'était Jean Dujardin qui était là et qui me disait « Qu'est-ce qu'il a fait d'autre comme erreur ? Je me doutais bien qu'il se plantait, etc. » Parce que lui, du coup, il a été obligé d'apprendre le cinéma muet à haute dose, m'a dit Michel Hazanavicius, qu'il a emmené à la Cinémathèque française et qui lui a montré les films de King Vidor, les films de Hawks, les films de Murnau, les films de la fin des années 20, pour voir un petit peu comment était la gestuelle, etc. Bon, c'est un film qui est très intéressant parce qu'on voit qu'on peut faire déplacer des millions de spectateurs et récolter des prix simplement avec un film sans parole. Donc, il y a comme ça un clin d'œil au fonctionnement, à l'histoire du cinéma et le public finalement, soi-disant réticent au noir et blanc, au muet, on voit bien que tout ça c'est des clichés, ça dépend de campagnes de publicité, de marketing et de la façon dont on présente les films. Donc voilà, pour moi c'est un bel espoir pour pouvoir faire admettre par tous les étudiants que j'ai en amphi que c'est très bien d'aller voir des films muets et ça c'est important.
Merci Martin Barnier d'avoir accepté notre invitation et vous pourrez retrouver en complément sur la page de l'émission un lien vers l'émission enregistrée sur France Culture et qui traite des mêmes thématiques.